Bernard Fortomme, vous êtes franciscain, vous êtes aussi théologien, poète et vous êtes aussi philosophe. C'est peut-être d'ailleurs par là que vous avez commencé. Quel est l'auteur qui vous a le plus marqué?
Alors, à ce point de vue-là, je dirais deux choses. C'est-à-dire, il y a l'inspiration profonde, qui est chez moi plutôt présocratique, l'attrait pour les éléments de la nature, l'eau, le feu, la terre, la Sicile, les volcans, le séisme, qu'on retrouve d'ailleurs dans les Actes des Apôtres. Le côté séismique de l'existence m'a toujours fasciné. Et puis, il y a le côté philosophe contemporain. Et puis ensuite, je me suis intéressé à la psychiatrie sous la direction de Dohalens et Jacques Scott, qui a développé toute une psychiatrie, une anthropopsychiatrie des pulsions.
Et la philosophie, vous parliez de Socrate et des volcans.
Oui, alors justement, parce que souvent dans la tradition nietzschéenne, heideggerienne, on oppose la physique des présocratiques à l'humanisme socratique. Et c'est vrai que ce qui m'a toujours fasciné chez Socrate, c'est pas simplement son humanisme, mais c'est plutôt le fait qu'il rend la pensée, la réflexion, la critique accessible. On peut le rencontrer sur la place publique, mais aussi, comme dans l'Apologie de Socrate, au pied de son lit, on frappe au petit matin, Socrate, es-tu là? Et puis on pose les grandes questions, la vérité, qu'est-ce que le courage, la justice, l'être?
Et comment s'articulent les grandes questions de l'être, de la vérité avec les éléments, l'eau, le feu, les
Voilà,
volcans?
je pense que là, il y a une tension, si vous voulez, entre la question de la sagesse physique et je dirais des grandes dimensions de la vérité, de la beauté et de la bonté.
Est-ce que c'est ce chemin qui vous a conduit jusqu'à Saint-François d'Assise?
Oui, je pense, parce que ce qui est intéressant chez Saint François, c'est que d'un côté, on a ce sens extraordinaire des éléments, du feu, de l'eau, du soleil, des étoiles, qui les rapproche de l'homme, donc toujours ce sens de la proximité. Il n'y a pas, le monde n'est plus divisé en deux parties. Avec Saint François, tout le monde est frère ou sœur. Même l'astre le plus éloigné ne peut jamais que développer son caractère finalement d'être créé, d'être filial et d'être fraternel. Tous sont créatures de Dieu. Donc nous sommes tous frères en tant que créatures de Dieu. Donc dans la mesure où nous avons tous un rapport direct à notre Créateur, nous sommes tous frères. Donc il n'y a plus rien, finalement, dans une certaine mesure, d'étranger dans le monde, même si on en découvrait les planètes les plus lointaines, des personnages les plus étranges, finalement, ils seraient d'abord frères.
Vous parlez de lien fraternel. Est-ce que dans cette façon de vous exprimer, il y a derrière aussi tous les liens fraternels que vous avez pu tisser au cours de vos rencontres?
Je dirais d'abord la figure de Jésus qui chez moi, vient à pied du fond des âges. C'est-à-dire, il m'a fallu un temps considérable pour quitter le crucifix, le pantocrator. Il m'a fallu un temps très considérable d'abord pour le découvrir comme un frère et un ami. Et je dirais que ce qui représente le mieux mon parcours, c'est le récit de la femme au flux de sang. C'est-à-dire, pour moi, le Christ, c'est d'abord une rumeur. C'est d'abord ce que j'ai entendu dire de lui, comme cette femme au flux de sang qui est malade, qui est rejetée par sa famille. Donc c'est cette espèce d'écoute, on est rendu sensible par une souffrance intérieure, et elle a entendu parler de ce Jésus qui passait, elle le suit. Elle sait que cet homme-là peut lui faire du bien, elle a entendu parler de lui. Elle y va, elle l'aborde d'une manière humble et modeste, d'abord de dos, un peu comme dans l'Ancien Testament. On voit d'abord Dieu de dos. Et puis soudain, elle ose, c'est l'audace de l'esprit, c'est cette espèce d'audace qu'elle qui est impure, elle sait qu'elle va rendre Jésus impur en le touchant, et elle l'ose quand même, parce qu'elle sait que le Christ nous met au-delà de ce qu'elle a entendu dire, et soudain, le Christ se retourne. Et ça, c'est vraiment la volte-face. Brutalement, il y a un événement, il y a une rencontre, elle n'est pas directe, le Christ demande qui l'a touché, et c'est seulement ensuite qu'il voit à qui il a affaire. Donc mutuellement, c'est une découverte. Le Christ me découvre parce que je l'ai d'abord recherché. Donc moi, ma vie, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que en dehors de toutes les personnalités que je vous ai dites, c'est un peu finalement des gens qui ont un point en commun, c'est-à-dire que Socrate, Saint François et Jésus sont des gens qui n'ont pas écrit. Ce sont des gens de la rencontre, de l'agora, des gens qui sont accessibles, même à une femme inconnue dans la rue, comme Socrate, comme Saint François, non seulement avec les hommes, mais avec les ennemis, avec les bandits, avec les loups, avec la sauvagerie, la cruauté de la vie. C'est-à-dire que la cruauté de la vie, elle aussi a accès à eux. Ce ne sont pas des gens protégés. Socrate va mourir injustement, Saint François va aussi énormément souffrir à cause de la stigmatisation, puis de ses maladies contractées au Proche-Orient, et puis Jésus commençait sa fin douloureuse. Donc au fond, ce sont des gens qui ont quand même une commune mesure, si vous voulez, de sagesse. C'est d'abord quelque chose qui précède en quelque sorte des formulations de foi. Vous voyez, donc je ne suis pas parvenu à formaliser tout ce que je viens de vous dire rapidement. Donc il m'a fallu énormément de parcours, de recherches, d'hésitations. Et puis comme souvent chez les Russes, on passe de l'hésitation prolongée à une impulsion brutale.
Et cette réflexion, impulsion brutale, vous a aussi mené, vous êtes directeur d'un centre où on accueille et on écoute. Comment est-ce que vous êtes venu à cela?
C'est vrai que j'étais beaucoup impliqué dans un centre d'accueil tout près de la Salpêtrière, donc qui accueille les malades mentaux, essentiellement des gens qui ont de graves problèmes psychiques, et des schizophrènes, enfin des gens qui ont vraiment des douleurs spirituelles et psychiques qu'il faut savoir écouter. Et donc finalement, d'où cela est venu? Eh bien, un peu de ce que je vous disais, c'est-à-dire que finalement, j'ai toujours été très sensible dans les Écritures, dans la tradition chrétienne, ce sens de l'hospitalité et de l'ouverture à la maladie et à la souffrance. Parce qu'on peut lire le Christ, évidemment, la vie du Christ sans cela, mais alors c'est amputer l'évangile de Marc de moitié. Je pense que dans toute expérience de maladie, il y a la révélation par la maladie d'une dimension profonde et universelle de l'homme. Dans toute forme de souffrance psychique, même la plus délirante, il y a toujours un aspect révélateur d'une dimension, d'un vecteur fondamental de l'homme. Il y a toujours quelque chose qui est lié, par exemple, je ne sais pas, prenons un exemple, les troubles maniaco-dépressifs, ce qu'on appelle des troubles de l'humeur, eh bien, au fond, ils nous révèlent ce qui est pour l'homme son ambiance fondamentale, sa manière de contacter le monde, le contact avec le monde, le tact premier, le toucher premier que les choses ont avec nous et nous avec le monde. Quand ça, effectivement, c'est troublé, quand on perd précisément l'audace, n'est-ce pas, cette audace spirituelle, cette sagesse fondamentale que tout homme, normalement, a à sa disposition, qui nous fait nous rencontrer les choses, sortir de nous-mêmes, goûter les éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre, les rencontres humaines. Quand ce tact est affecté, eh bien c'est toute l'atmosphère, c'est toute l'ambiance, c'est tout notre entourage qui est affecté. Et c'est l'expression de ce trouble de l'entourage, de l'audace spirituelle qui habite tout homme, qui est justement une des caractéristiques de la manie et de la mélancolie. Chaque forme de pathologie, toutes les perversions sexuelles, les délires, les hallucinations, révèlent enfin des grands vecteurs, si vous voulez, de la vie.
Est-ce qu'on peut dire aussi que ces grandes souffrances ont révélé aussi qui vous êtes ?
Je pense que dans la tradition psychiatrique qui m'a formé, c'est-à-dire celle de Zondi et de Scott, de Jacques Scott, justement, le test de Zondi, c'est précisément de connaître qui sont les gens en voyant comment ils réagissent par rapport au visage humain. Et on vous met des visages, on dit comment est-ce qu'il vous est sympathique, antipathique, c'est-à-dire la façon dont vous comportez avec le visage d'autrui est très révélateur de vous-même. Alors lui, il a retourné, vous voyez, c'est extraordinaire, au lieu de stigmatiser l'autre par son visage, en stigmatisant l'autre, ça révèle ce que vous êtes en profondeur, pas ce que l'autre est. Vous voyez, cette espèce de volte-face par rapport au visage.
Bernard Fortomme, quand vous regardez derrière, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous regardez devant, qu'est-ce que vous avez envie de dire ou qu'est-ce que vous avez envie de vivre?
Ce qui m'a frappé surtout ces dernières années, c'est que finalement le passé lui-même n'est pas homogène. C'est-à-dire que le passé est double. En fait, il y a dans notre vie un passé, je dirais, solide, un passé résistant, dur, quelque part impitoyable, un peu de l'ordre du cœur notre propre cœur qui nous juge par rapport à notre passé. Et puis par rapport à ce passé dur, il y a un passé souple. C'est vrai que parmi toute notre existence, il y a des choses qui ne se sont pas encore épanouies. C'est comme des raisins qui n'ont pas encore été croqués du paradis. Je dirais dans notre vie, c'est un peu pareil. Il y a des forces qui se sont manifestées dans l'enfance, dans l'adolescence, dans le premier âge adulte, qui n'ont pas encore été épanouis. Ce sont un peu peut-être aussi ça à quoi il faut être attentif, c'est-à-dire pour essayer justement de ne pas simplement fuir son passé pour un avenir meilleur, même pour un avenir meilleur. Alors pour le présent, je dirais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, le présent lui-même n'est pas homogène, il est fissuré. C'est-à-dire que ce que je fais, au moment où je le fais, quelque chose d'autre pourrait advenir, c'est finalement la définition de la liberté. Et alors, je dirais que pour le futur, c'est la même chose. C'est-à-dire que le futur, bien sûr, c'est pas seulement futur. C'est quelque chose qu'on anticipe dans la vie. Donc, il y a une anticipation du futur. Et pour les chrétiens, évidemment, cette anticipation du futur, elle est configurée dans la vie du Christ, dans les signes que le Christ nous a donnés, dans les signes de guérison, dans la manière dont il a donné l'hospitalité à l'être humain et à l'humanité en lui. À mon avis, c'est tout un programme de vie qui nous reste à accomplir chacun. Dans la mesure même où nous serons hospitaliers vis-à-vis de l'humanité, finalement, qu'est-ce que j'appelle l'humanité ? C'est la sagesse humaine, c'est-à-dire pas simplement la vérité, mais la joie de la vérité. C'est une vérité qui rend joyeux, mais au sens médiéval du mot gaudium. C'est-à-dire une vérité, une joie qui fait vivre ensemble, une joie qui crée du lien social. Voilà un peu un programme de vie. Voyez, chercher la vérité, mais la vérité qui rend joyeux.